Le journal Claude Bousset. Trois infirmiers parmi les 20 qui sont allés au secours de la population de Pounia atteints sont atteints du syndrome respiratoire aigu. Ils suspendent la prise en charge des malades en attendant un secours consistant. Des cartes d'électeurs cachetées avec le sceau de la CEI causent des ennuis à leurs porteurs. La CEI s'excuse et promet de leur procurer le duplicata. Réaction de la MONUC face à la confusion au sein du mouvement rebelle Hutu des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda. La MONUC s'en tient à l'engagement, à leur engagement de Rome pour le retour volontaire de ces rebelles, quelle que soit la tête de celui qui dirige le mouvement. Bonsoir, nous commençons ce journal dans la province du Maniema où trois infirmiers qui sont allés au secours de la population de la carrière minière de Libakuyasuka dans le territoire de Pounia sont atteints du syndrome respiratoire aigu. L'équipe des soignants décide donc de suspendre la prise en charge des malades s'ils ne reçoivent pas rapidement de matériel de protection. On signale en dernière minute que certaines ONG internationales ont répondu déjà à cet appel. Reportage Sadala Chabani.
Une vingtaine d'infirmiers constituent la clinique mobile créée depuis le déclenchement de l'épidémie il y a quelques semaines. Trois d'entre eux sont malades. Ils présentent les mêmes symptômes que leurs patients. C'est le cas d'infirmiers de Libakuyasuka.
Nous n'avons pas de protection. Nous vous disons ça à haute voix. Jusqu'à présent, je continue toujours à souffrir. Ici, nous entendons l'intervention de l'MSF qui nous a promis qu'il sera ici aujourd'hui. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore là. Donc, s'il n'arrive pas aujourd'hui, nous allons abandonner. Puisque nous sommes aussi exposés.
Contacté par téléphone, M. Philippe Daverne, responsable de l'ONG Médecins Sans Frontières Belgique, basé à Kisangani, reconnaît cette situation qu'il qualifie de sérieuse.
Mais bien sûr, au moment où les équipes sont parties sur le terrain, ils n'avaient pas tout le matériel. Ces gens qui travaillent avec nous reçoivent déjà et vont continuer à recevoir du matériel de protection, c'est-à-dire gants, tabliers, lunettes, masques, enfin tout le matériel de protection utile dans ce genre de cas. Ces équipes ont été ravitaillées et lundi par un avion affrété par Merlin et hier par un deuxième avion affrété par un médecin sans frontières.
Cette information est confirmée par le médecin chef des zones de santé de Pounia. Il annonce l'acheminement des matériels et des médicaments ce matin à Libakuyasuka. En attendant la distribution des matériels de protection, les infirmiers qui soignent en ce moment des malades à Pounia, à Obokoté et à Lubutu restent exposés. De Kindu, Sadala Chabani, Radio Okapi.
En province orientale, le personnel médical de la zone de santé de Bondo est en grève depuis lundi en guise de solidarité. Les propriétaires des pharmacies ont fermé eux aussi leurs officines. En fait, les infirmiers de Bondo, cette cité située à 525 km nord de Kisangani, chef-lieu du district du Haut-Touélé, réclament, non, c'est plutôt ici au chef-lieu. Donc, je parlais de Bondo. Les infirmiers réclament 3 mois d'arriéré de salaire, selon le docteur Jean-Pierre Osoko, médecin chef des zones de santé de Bondo. Pour les 3 mois versés au cours de cette année, le gouvernement n'a payé que 30 infirmiers sur un total de 138 qui sont mécanisés. Les pygmées ou bamboutis du Sud Kivu se plaignent. Ils accusent le gouvernement de ne pas s'occuper d'eux. Ces bamboutis des environs du parc de Kahuzi-Biega craignent d'être exclus du processus d'enrôlement à cause de l'insécurité causée par les combattants Hutu rwandais dans la région. Marigane Rukera, membre de la communauté Mbuti au Sud Kivu, il est au micro de Serge Maesh.
Les interahamwes peuvent partir et nous les pygmées, nous allons demeurer toujours dans la souffrance. Parce que les autorités en place qui font tout ce qui se passe ne s'intéressent pas à nous et ils ne savent même pas que nous on existe. Il n'y a que les ONG qui s'occupent des pygmées qui pensent à faire des pygmées des personnes parmi les autres. Nous on se demande si les autorités congolaises savent que nous existons. Ils ne veulent pas associer les dirigeants de Bambouti à venir siéger avec eux. Nous on se demande si nous sommes les ennemis du Congo. Personne ne nous connaît, personne ne s'occupe de nous. Nous sommes pauvres, on n'a rien, même pas des habits à se mettre.
Des cartes d'électeurs portant le cachet de la CEI causent du tort à certaines personnes qui l'ont reçu de bureaux même d'enrôlement à Kananga, au Kasaï occidental. Certains détenteurs de ces cartes scellées se voient malmenés par une partie de la population qui les accuse d'avoir l'intention de frauder aux élections. Mais ils subissent aussi les tracasseries de certains services de l'ordre. Reportage Basile Bakumbani.
Certains bureaux d'enregistrement de la ville de Kananga ont scellé les cartes d'enrôlement. Et les bénéficiaires de ces cartes se voient accusés de tous les maux. On les associe aux fraudeurs des élections. Témoignage d'une victime.
Les gens sont en train de nous menacer pour dire que non, nous sommes complices des enrôlements, nous sommes complices des élections. C'est comme si nous avons déjà élu. Les services aussi de l'ordre nous menacent pour dire que non, avec les cartes déjà scellées, c'est comme si nous avons déjà voté.
Abordé à ce propos, Edmond Tambwe Kapambu, coordonnateur de la CII au Kassai Occidental, reconnaît que cela est une erreur qui doit se corriger le plus tôt possible.
C'est une erreur de la part de chefs de centre qui ont utilisé un petit seau qui se trouve dans le carton. Ce petit seau sert à sceller le papier de correspondance entre le centre et la hiérarchie. Ce n'est pas à mettre sur la carte des lecteurs. Le vote n'est pas encore là, on n'a pas de candidats, on ne les connaît pas. Alors comment est-ce qu'on pouvait voter? Il est question seulement que ceux qui possèdent ces cartes puissent les retourner à leur centre pour qu'on leur fasse de duplicata.
Il demande toutefois à la population locale de ne pas accuser gratuitement leurs compatriotes pour une petite erreur qui doit se corriger. De Kananga, Basile Bakumbane, Radio Okapi.
Code de bonne conduite électorale, 196 partis politiques de notre pays ont déjà signé ce document, ce code initié par la Commission électorale indépendante pour que les futures élections se passent dans un esprit apaisé, dépourvu de tout acte de violence. Jusqu'à ces jours, certains grands partis politiques comme l'UDPS ou le PPRD ne l'ont toujours pas signé, indique une source proche de la CEI. Côté UDPS, on indique que la faute est aux organisateurs du Forum des partis politiques qui ont déjà fait signer ce code à deux formations politiques portant le même label qu'elle. On écoute Maître Joseph Mukendi, conseiller politique d'Étienne Tshisekedi.
Notre parti a participé à tous les travaux qui ont conduit à l'élaboration de ce code de bonne conduite. Et sur le plan des idées, nous partageons parfaitement les idées. Mais au moment de la signature, il se fait que les organisateurs ont d'abord privilégié deux autres formations qui se sont présentées comme étant UDPS. Et lorsque nous nous sommes rendus compte que le document était déjà signé par des personnes de formation portant la même homonymie que nous, nous avons estimé qu'il n'y avait pas lieu à encourager donc cette tricherie autour du label UDPS. Et c'est la raison pour laquelle jusqu'à présent nous attendons que la situation soit régularisée par les personnes qui doivent la régulariser de façon à ce que lorsqu'on parle de l'UDPS, on sait de qui il s'agit.
Au secrétariat général du Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement, PPRD, c'est encore le silence aux multiples tentatives de la rédaction de Radio Okapi d'en savoir un peu plus. La commission électorale indépendante, elle, affirme que la porte n'est pas fermée pour les partis qui n'ont pas encore signé ce code de bonne conduite électorale. Pour ce qui est du point de vue de l'Union pour la démocratie et le progrès social, elle, Étienne Tshisekedi, la CEI affirme s'en tenir à la liste officielle des partis politiques retirés du ministère de l'Intérieur, liste qui reconnaît l'UDPS, mais avec trois présidents nationaux et trois sièges. On écoute des explications de Mme Carole Kabangé, premier rapporteur adjoint de la CEI, superviseur de la commission spéciale chargée des questions juridiques et du contentieux.
Si on essaie de voir la liste des partis qui sont reconnus par le ministère de l'Intérieur, il y a trois UDPS. Donc nous, la commission électorale, nous nous contentons d'inviter tous ces partis comme le PPRD à nos forums de partis politiques. Donc nous n'avons écarté ni le PPRD ni l'UDPS, loin de là. C'est ça nos partenaires. Il faut encore qu'on puisse bien clarifier les choses. La commission électorale travaille avec les partis qui sont reconnus par le ministère de l'Intérieur. Nous avons retiré la liste des partis politiques reconnus officiellement au ministère de l'Intérieur. La porte reste ouverte et nous n'avons pas dit que les retardataires ne peuvent pas signer. Non, c'est faux. Donc ils peuvent venir et ils signeront. La commission électorale ne peut pas refuser ça.
C'était là un dossier réalisé par notre confrère Eugène Kabambi. Parlons intolérance politique à Kisangani. Dimanche dernier, deux associations des jeunes de la commune de Mangobo se sont battues. Une bagarre en deux temps qui a opposé les Bana États-Unis et la Ligue arabe. Ce sont les noms de ces bandes des jeunes. C'était au moment où chacun de ces groupes venait d'accompagner son leader à l'enrôlement face à cette violence qui risque de prendre de l'ampleur pendant la campagne électorale. Le maire de Kisangani appelle au calme et à la tolérance. Reportage Jacques Moukonkolé.
Ces affrontements sont survenus peu après l'enrôlement de deux personnalités, toutes originaires de la commune de Mangobo. Il s'agit d'un ancien bourgmestre de cette commune ainsi que du vice-maire en charge de l'administration. Les deux groupes rivaux aux idéologies politiques différentes se sont rencontrés au moment où l'une des associations transportait son leader en tipoy. Là, ils se sont lancés des colibés, à tel point qu'ils se sont arrachés leur drapeau avant de venir aux mains. La même scène s'est reproduite à un autre endroit quelques heures plus tard. L'on déplore la perte de quelques biens, notamment un vélo ainsi qu'un sac de reportage avec certains effets pour caméramen. Le bourgmestre de la commune de Mangobo ainsi que le groupe Lotus, une ONG de défense des droits de l'homme, ont réagi face à ces événements. Ils condamnent fermement cet acte qui n'est pas le premier dans les rapports des associations et mouvements politiques à Kisangani. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Le nombre de réfugiés congolais qui quittent l'Ouganda en masse pour rentrer en RDC continue à augmenter depuis ces 6 derniers mois. Des chefs de localité et des humanitaires présents en Ituri l'estiment à plus de 20 000 personnes et 35 000 têtes de bétail. Le comptage du Haut Commissariat pour les réfugiés tourne lui autour de 14 000. Sans nier une possible augmentation de ces chiffres, Jens Assmann, chargé des relations publiques au HCR, pense que l'insécurité est le plus grand obstacle à ce retour.
On ne va pas les garder en Ouganda. Ce n'est pas à nous à décider, c'est aux réfugiés à décider ça. C'est un retour toujours volontaire. Mais en même temps, on les informe sur les conditions en RDC et les conditions en Ituri particulièrement ne permettent pas pour l'instant d'organiser un retour. Il y a trop de risques. En général, il persiste des problèmes, par exemple, harcèlement par les militaires et occupation illégale des maisons. Mais les réfugiés congolais en Ouganda, ils reçoivent l'assistance humanitaire et la protection du HR en Ouganda, santé, soins médicaux, il y a les vivres et non-vivres, les autres services qui sont fournis dans les sites et camps de réfugiés en Ouganda.
C'était la Jens Assmann, chargé des relations publiques au HCR. Il était au micro de Georges Kamoudjova. Réaction de la MONUC face à des conflits internes ayant mené à la séparation des forces démocratiques pour la libération du Rwanda. La position de la MONUC n'a pas changé face à ce mouvement rebelle hutu rwandais. Elle s'en tient aux principes résultant de leur engagement de rentrer chez eux dans leur pays au Rwanda. Engagement pris à Rome l'année dernière. Je vous propose d'écouter le porte-parole, la porte-parole de la MONUC, Rachel Ekloua-Sogbavi. Elle intervenait cet avant-midi au cours de la conférence de presse hebdomadaire de la MONUC.
Nous avons toujours déclaré que peu importait le nom de la personne qui dirige les FDLR, l'important pour nous, c'est d'avoir des résultats. Les FDLR se sont engagés par la déclaration de Rome à désarmer et à rentrer volontairement chez eux. À l'époque, il y avait quelqu'un à la tête des FDLR qui s'était engagé à un certain nombre de choses. Depuis le 31 mars, on n'a plus rien vu du tout. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est d'avoir des résultats et de voir les combattants hutus rwandais arriver dans les 6 zones de rassemblement temporaire qui sont prévues dans le Nord Kivu et dans le Sud Kivu, avant leur retour volontaire au Rwanda. On attend donc les résultats.
Rachel Ekloua, porte-parole de la MONUC, était au micro de Kéline Kouté. La localité de Lunga au Katanga, située à plus de 270 km au nord-ouest de Kalemie, a été le théâtre d'affrontements entre éléments de FRDC, les Mai Mai. C'était le jeudi et vendredi de la semaine dernière. Françoise Avemibé, qui a rencontré un élément Mai Mai témoin de cet affrontement, nous en retrace le contexte.
Selon un élément de la 8e brigade des Mai Mai blessé par balle à la jambe au cours des affrontements, les éléments des FRDC ont mené deux attaques, la première jeudi de 15 à 20 heures et la deuxième vendredi à l'aube de 5 heures à midi. Ces allégations sont également confirmées par d'autres témoins fouillant la zone des conflits rencontrés à Nyuzu. Témoignage des Mai Mai blessés. Ils sont venus nous attaquer. C'était à 15 heures. À leur arrivée, ils ne tiraient pas. Mais ils l'ont fait quand ils ont atteint l'endroit où nous nous trouvions. C'était des tirs bien nourris pendant au moins une heure et demie. Toutefois, selon l'administrateur de territoire de Nyuzu, le conseil de sécurité de Nyuzu a sollicité les concours de la brigade des Kalemie pour obtenir la sécurité dans les secteurs de Lunga. L'administrateur du territoire de Nyuzu, André Ilunga Kabale.
Cette demande, c'était juste dans le sens que, en prévision aussi des opérations électorales, donc il était question que le Conseil de sécurité se réunisse et fasse une demande express au Conseil de district. Il a réuni aussi à son tour les membres du Conseil de sécurité du district de Tanganyika. Et ils ont essayé d'analyser la situation. Qu'est-ce qu'il faudrait?
Compte tenu de la distance qui sépare la localité de Lunga de part et d'autre de Kalemie et Nyuzu, il est à présent difficile d'établir le bilan exact des affrontements de Lunga. Enfin, à 6 jours des affrontements, la situation reste encore difficile à clarifier. Les autorités militaires locales des FRDC restent injoignables. François-Xavier Bibé, Radio Kapi, Kalemie.
En dehors de nos frontières, le nouveau président du Burundi sera élu vendredi par les députés et les sénateurs lors d'un scrutin sans suspense. Le leader de l'ex-principale rébellion Hutu, Pierre Nkurunziza, est assuré de l'emporter. 5 petits partis d'opposition tanzaniens ont formé une alliance et décidé de présenter un candidat commun en vue de l'élection présidentielle d'octobre prochain, ont-ils annoncé ce mercredi. Il s'agit du candidat Edmund Sengondo Mvungi, 53 ans, enseignant de droit à l'université de Dar es Salaam, il dirige une organisation non gouvernementale des droits de l'homme.